Andy Portavoz, un chanteur mapuche.
Petu chilka tu keninche, chilka tu fengen, choyungen, wariame welune wen tu trepen, amule peta inchekan, wifi ke mongen, fei musta mulei fauble tain, wifi ke che yamin kake in, tain ki mun lor mongen, fei maya in, wita pa in filple mapu askin tu in, tamun koila sungu fei mu wei chatua in, wira ke in, inka ke in, tain ki mun lor mongen, fei maya in, wita pa in filple mapu askin tu in, tamun koila sungu fei mu wei chatua in, wira ke in.
Incheta Andy Ferrer Millanao, igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinao. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento, pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el kimun que llevo dentro, recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo, sacándome esta cristiandad, comunicando en comunión como lo hace mi comunidad. Mapuche ni en mulepan, guarrameo, vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñu que también me toca a mí. En cual mapu puta o el peñalo Lenny con Chalí. Hoy vuelvo a mi ñu que mis manos son pa' ti. Viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Está en kimun meo, hemos recuperado. Quien lleva in puche, wey trapajín. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain.
Incheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los póster a mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo mudo de mi mabu dungun, huelu quiñe peumal veneuta ni que un. Realidad cruda se suda, hay más cemento pero igual que se folle paico llante ni ruda. Me saluda, chiuque wilki y chincol, no faltó de cabro chico una sopa de napor. Educación chilena no negó, historia de Quilapan, Calfucura exterminio te plegó y no borró. Como Galvarino vengo yo, nos cortaron las manos pero Coligüe me colocó. Como un loco por hablar mapuche en plena ciudad, nos han robado todo menos el feyentún, identidad y por la oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra.
Estamos acá siguiendo este llamado ancestral, sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá en medio de mi tierra, me fundo yo con ella mirando a las estrellas. Fawiñule pan petumulei weishan, comptañi puchel el fulmun hoy malan. Dañi shao tripa y nahuel, dañi ñuque milla nahuel, fey munne wenien. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Está en kimun meo, hemos recuperado. Quiñe guajin puche, wey trapajin. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Está en kimun meo, hemos recuperado. Quiñe guajin puche, wey trapajin. Quiñe guajin puche, wey trapajin. Quiñe guajin puche, wey trapajin. Quiñe guajin puche, wey trapajin.
Une fois n'est pas coutume, on a introduit le sujet dont on va parler par une chanson chantée par le rappeur mapuche Andy Portavoz. Cette chanson s'intitule « Huitrapeñ estamos de pied ». Mais qui sont les mapuches? Quel est Bruno? Brièvement leur histoire dans le Chili d'aujourd'hui.
Comme une grande partie de l'Amérique latine, le Chili n'a pas toujours été cette entité géographique en forme de carotte, à l'ouest de l'Amérique latine où la population parle majoritairement espagnol. Avant la colonisation du XVIe siècle, ces territoires étaient peuplés par ce que l'on appelle maintenant les Amérindiens, et notamment par le peuple que l'on dit autochtone, le peuple mapuche. Avant l'arrivée des Espagnols, des conquistadors, ce peuple vivait depuis des siècles avec des traditions, une langue, des coutumes. Pendant plusieurs siècles, les mapuches résistèrent militairement à l'occupation coloniale et restèrent indépendants sur une partie du territoire actuel chilien appelé l'Araucanie. Ce ne fut réellement qu'à la fin du XIXe siècle que les Mapuches furent vaincus et que les limites géographiques du Chili actuel se constituèrent. Comme tous les peuples autochtones, les Mapuches sont toujours en lutte pour préserver leurs terres et leur identité.
En 2015, Michel rencontra Gabriela Siwaelaf, une cinéaste d'origine mapuche, au Festival Cinéma de Douarnenez.
La musique qui vous inspire ?
Oui, ce sont des sonorités qui viennent, qui font partie aussi de ma part sud-américaine, que forcément on a quand on grandit dans une société qui ne nous laisse pas connaître des façons à part entière sur notre propre culture. Donc c'est vrai que ce sont des sonorités aussi qui me parlent, qui font partie de moi aussi en tant que personne venue de l'Amérique latine.
Gabriela ?
Oui ?
Qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie ?
Les images. Je pense que les images sont quelque chose qui me motive, qui me pousse à observer mon environnement, mes origines, notre culture, ma culture, elle est très imagée. Donc on fait souvent référence. Il y a beaucoup de choses qui dépendent, par exemple, des rêves. Les rêves sont des images. Je pense que les images me mobilisent beaucoup. Dans la culture mapuche, les rêves peuvent nous annoncer des choses. Donc je pense que de là venait l'intérêt de mes parents à nous demander tous les matins, ou presque, est-ce que tu as rêvé ?
Comment je vous présenterai au public de Douarnenez ?
Alors moi, je suis chercheuse en cinéma. J'ai fait tout mon parcours universitaire en études cinématographiques. Et le festival m'a invitée à imaginer la programmation du Focus Mapuche qui a été présenté toute la semaine ici au festival. J'étudie, j'interroge le cinéma autochtone et plus spécifiquement le cinéma mapuche.
Qu'est-ce que ces recherches vous enseignent ?
Ce cinéma me montre beaucoup de choses. Une sensibilité spécifique que les cinéastes pourraient appeler plus une esthétique. Les cinéastes s'intéressent beaucoup à montrer leur situation actuelle en tant qu'individu appartenant à un peuple. Donc c'est aussi une sensibilité. Parfois, certains parlent aussi de cette question des rêves. Ça nous enseigne tous, nous, spectateurs de ce cinéma, que les peuples autochtones en général et les peuples mapuche possèdent une sensibilité par rapport à l'environnement et à leur lutte aussi. Ça peut donner parfois des sujets filmiques très complexes, parfois que les gens ne comprennent pas trop, mais du coup, des sujets filmiques très intéressants.
On va s'intéresser aux mapuche. Vous dites autochtones.
Oui, ça c'est un mot comme tant d'autres. On parle d'Indiens, on parle d'indigènes, autochtones. Souvent, on me pose la question, qu'est-ce qui est plus correct ? Ce qui est correct, c'est Mapuche. Nous, les peuples autochtones, comme on nous dénomine, ou Premières Nations aussi, dans le nord des continents américains, on dit, nous ne sommes pas des autochtones, des indigènes, etc. Nous sommes des Guarani, Mapuche, Quechua, etc. Donc, il n'y a pas vraiment un mot qui pourrait nous désigner. Il n'y a pas de problème.
Les Mapuche, comment on peut décrire leur rapport avec la société chilienne ?
Alors nous, quand on pousse un peu plus la question, on dit nous ne sommes pas un peuple, nous sommes une nation. Nous sommes présents au Chili et en Argentine. En Argentine, nous sommes un peu moins nombreux, 600 000, alors qu'au Chili, nous sommes 1,5 million de personnes. Il faut savoir que le peuple Mapuche, ça a été le seul peuple qui a résisté à l'invasion espagnole. La couronne espagnole a d'ailleurs signé un traité de paix avec le peuple Mapuche, installé une frontière. Une fois que l'État chilien s'est constitué, l'indépendance chilienne est arrivée, et là, l'État a signé des parlamentos, ce sont des documents qui disaient aux gens, voilà, vos terres, c'est d'ici à là. Et le problème, c'est qu'ils ont commencé à appeler à des étrangers, beaucoup de colons français, italiens, qui sont arrivés dans ces terres, qui ont été donc vendus pour un rien à ces gens-là, étaient vendus aussi avec les gens qui habitaient là. Donc on réclame une légitimité de présence dans le lieu, mais aussi c'est une question plus concrète d'un processus de récupération des terres qui est mené maintenant depuis plusieurs années en territoire mapuche. Bon, la situation du peuple mapuche aujourd'hui elle est très complexe. Donc, des deux côtés du pays, aujourd'hui au Chili, en ce moment-là, il y a 16 prisonniers politiques qui ne sont pas reconnus en tant que tels, donc qui n'ont pas les protections judiciaires qui pourraient être à leur avantage. Pour régler la situation, il y a un processus de récupération des terres très important aussi, au Chili comme en Argentine. À la différence qu'en Argentine, la convention 169 de l'OIT a été rectifiée il y a très longtemps. Le Chili, n'y a pas très longtemps, mais aucun des deux pays ne met en application cette convention qui, entre autres, demande aux États la consultation préalable aux peuples autochtones pour réaliser tout projet, peu importe lequel, qui toucherait leurs terres. Mais ça fait très très longtemps que les entreprises forestières, centrales hydroélectriques et autres, extraction du pétrole du côté argentin, sont installées et puis détruisent petit à petit nos terres.
Des Mapuches néolibéraux, ça n'existe pas?
Non.
Pourquoi pas?
Peut-être bien, mais il faudrait demander aux néolibéraux s'ils les considèrent en tant que tels. Mais c'est revendiqué directement ainsi. Les gens disent, mais arrêtez de nous mettre dans des cases, de nous mettre dans des groupes. Nous défendons notre terre, un point, c'est tout. Donc après, peut-être que si vous allez les demander, peut-être qu'ils considèrent que c'est le cas, d'autres pas. Ça, je ne peux pas l'affirmer comme ça.
En chemin, nous abordons deux festivalières, Noël et Claudine. Mais que savent-elles sur les Mapuches?
C'est un peuple qui a du mal à faire valoir ses valeurs et de vivre suivant ses traditions et qui est vraiment un peuple éparpillé, quoi.
C'est vrai que nous sommes très dispersés dans les grandes villes. Souvent, on m'a posé la question, est-ce que vous habitez toujours en communauté? Oui, c'est le cas, mais aussi, il y a eu un mouvement d'immigration justement à cause de la pauvreté, parce que ce sont des communautés qui ont été très appauvries. Donc, nous sommes très présents en ville et éparpillés aussi des deux côtés de la frontière. Nous sommes présents au Chili et en Argentine. La dispersion, on va dire, en Argentine est encore plus importante parce que les distances sont énormes. Pour aller d'une communauté à une autre, on peut parcourir facilement 150 km. Et entre-temps, il y a des colons qui sont installés, donc les communautés sont très coupées. En effet, nous sommes assez éparpillés dans les villes et dans les deux pays, mais aussi dans le monde. Nous sommes certains ici en France, d'autres en Angleterre, des gens qui, surtout les générations qui ont participé beaucoup à la résistance, à l'opposition pendant la dictature militaire, donc ils ont été aussi considérés comme des opposants, donc exiliés pas mal ici en Europe. Donc cet avis est juste.
C'est un mot que j'ai découvert, parce que quand on regarde la programmation, donc j'ai vu Chili, enfin on voyait tous les pays, mm-hmm. et Mapuche. Coup, j'ai regardé sur la carte et puis je ne comprenais pas très bien. Alors, oui, je t'ai dit justement que j'allais me renseigner.
Oui, c'est vrai que j'avais fait la remarque au festival, de faire la différence justement, Mapuche et Chili. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que nous nous considérons comme pas seulement comme un peuple, mais comme une nation, parce que nous étions, avant l'arrivée des colons, puis l'indépendance des deux pays et l'installation des frontières, nous étions dans un territoire qui allait de l'océan Pacifique jusqu'à l'Atlantique en Argentine. Donc nous parlons d'une nation, pas vraiment d'un peuple.
Les femmes sont plus combatives?
Je dirais que oui, les femmes, à différence d'autres peuples, la femme a une place très importante dans le peuple Mapuche. C'est elle qui guide les enfants, qui transmet la culture et dans la question plus politique, il n'est pas rare qu'il y ait des femmes qui représentent, qui sont choisies elles. Pas seulement qui s'engagent, mais que les mêmes communautés les choisissent elles pour aller représenter leur communauté. C'est pas rare ça. Dans d'autres peuples, je sais, en Équateur, au Pérou, la situation des femmes est beaucoup plus complexe. Les leaders femmes ont rencontré souvent beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes dans leur peuple déjà et après bien sûr avec les sociétés dominantes. Mais le peuple Mapuche concernant ce point est une exception, je pense.
Oui, parce que dans de nombreux continents, on voit que la femme est vraiment un moteur de la famille, moteur même de la société. Sur ses épaules reposent énormément de responsabilités. Mais souvent, effectivement, elles ne sont pas leaders. Elles ne sortent pas du lot comme leaders. Alors oui. Qu'effectivement, là, on a senti qu'il y avait des gens, des femmes qui s'engageaient politiquement pour défendre les valeurs mapuche.
Et ça se fait naturellement, comme je le dis. Ce n'est pas elles qui viennent s'imposer quelque part. Ça se fait naturellement. Les femmes sont choisies bien souvent dans leur communauté pour représenter les gens, les familles.
Marie-Marie pour la mienne. Marie-Marie pour Kamolfun, Gwenoui, Kampuche, Tufachi, Duarnone, Wariameu. Donc bonjour. Je salue tous les amis qui sont là, dans la ville de Douarnenez.
Et puis un peu nos auditeurs de Nantes.
Et puis bien sûr à Nantes, tous ceux qui n'ont pas pu venir de Nantes, un grand bonjour aussi.
Et puis ouais, à ceux du monde entier. Hein.
Bien sûr, tous ceux qui voudraient bien nous entendre. Il y a un bonjour venu de loin, du sud du Chili, du peuple Mapuche. Chalto, Chaltumay. Chalto, c'est le résumé du mot Chaltumay. Merci.
Gumaita pinyan mai, gumaita pinyan mai. Kepangin gurma, chap ta pinyan mai. Mutungin gurma, chap ta pinyan mai. Amutungin gurma, kepaita. Gurumai, mautungi gurumai, mautungi pinyanmai, chap ta 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 pinyanmai.
Voici le témoignage de Félix Aliaga, médecin généraliste. Il témoigne de sa rencontre avec les Mapuches, de sa prise de conscience et de ses a priori. Une approche différente de la médecine, la traduction est effectuée et dite par Ignacio Estegui.
Monsieur Aliaga, vous pouvez nous raconter votre rencontre avec les Mapuches. C'était dans un cadre professionnel.
En réalité, ma première rencontre avec le monde Mapuche a été son prénom pour moi. Parce que l'histoire nous avait pris qu'il s'agissait d'un peuple courageux, héroïque et qui avait très fortement côtoyé les Espagnols. Donc, je voyageais après d'avoir gagné mon poste de médecin général dans la ville de Traigen, qui était environ 200 km de là où je vis à Concepción. C'était une expérience surprenante parce que, en descendant des bus dans cette ville, j'avais regardé une femme qui avait un chamal noir et un collier kucha, qui était un bijou, mais ici, sur la poitrine, et un trelonco qui est un bijou mis sur la tête, très coloré. Pour nous, c'était en fait foraine, populaire. Eh bien, très vite, je réalisais que ce n'est rien de tout ça là, parce qu'après, je me rencontrais des gens qui habillaient de la même façon. Et c'est qui allaient aussi à Traigen pour acheter des choses. J'ai appris qu'il y avait des communes indigènes qui avaient leur famille et leur maison dans cette ville de campagne. Et que je n'avais jamais entendu parler de elle, parce que pour moi, les autochtones, c'était des musées.
Comme je dis, les indígenas, pour moi, étaient des musées. Donc, une des choses que nous avons fait.
Une autre chose que nous avons fait avec mes autres collègues, comment nous devions sortir pour aller à des zones rurales, c'était converser beaucoup avec les familles que nous avons rencontrées. Nous avons commencé à connaître leur langue et leurs activités, comme des cérémonies, par exemple Karamekum, qui c'était une cérémonie pour les récoltes, ou des autres activités comme le palenque ou les jeux de la chueca. Nous avons commencé à nous intéresser dans leur culture qui était vivante et à connaître les environnements où ils habitaient. Leurs activités de subsistance socialement, c'était la production agricole, laquelle il était destiné pour son propre consommation et ce qui restait, il envoyait pour la vente dans les marchés locaux.
Casamente producían una parte la vendían en la otra. Fue un encuentro.
C'était une rencontre du point de vue de sa religiosité, car le monde mapuche, c'est un peuple très religieux. Ils ont un machi qui est la guérisseuse et c'est qui communique avec le dieu mapuche, qui est Nenenche ou Machitun, qui communique au moment où les malades vont vers chez elle ou quand elle va chez eux. Avec une cosmovision très intéressante dans laquelle nous avons essayé de connaître le maximum pour obtenir en relation médecin-patient qui pourrait intégrer nos propres éléments culturels et avoir leurs éléments à eux. Parce que la médecine est aussi associée à la religiosité. Dans ce monde religieux et médecine, il y a une structure assez formelle dans laquelle il y a des guérisseurs, des herbes médicinales et de l'observation. Et dans l'intérieur de l'observation, il y a la déduction et le traitement pour certains malades. Ce qui nous paraissait avec quelques collègues avec lesquels nous sommes allés à ce monde rural, c'était qu'ils nous ont inclus et qu'ils ne nous excluent pas. Et cela nous a facilité le traitement. Je me suis engagé dans des autres activités aussi communes avec les jeunes mapuchés et les vieux mapuchés, à conserver et à participer à leurs activités, aux cérémonies comme l'Iraptun, le Machiraptun. Nous avons reçu des informations sur les principaux sujets de préoccupation tels de l'exclusion et la discrimination, l'isolation et la pauvreté, résultat de l'histoire de spoliation de leurs terres. Puis ils se sont développés avec les années, avec leurs dirigeants de la commune comme Aucondo El Camar, comme José Santobillado ou comme Ana Liando, qui nous ont aussi rencontrés de nombreuses fois en remarquant ces sujets et avec qui nous avons discuté à de nombreuses reprises. Ce qui nous a permis d'avoir une certaine compréhension de ces problèmes avec l'État.
En vous intéressant à la médecine traditionnelle mapuche, est-ce que, en fonction de votre clientèle, vous adaptiez vos prescriptions ?
C'est une combination, parce que comme je travaillais à Traigen, puis je suis parti pour faire une bourse en chirurgie, et de cela s'était intégré aussi une autre en gastro-entérologie. De telle sorte que cela dépend du patient, du type de problème qu'il a, d'un certain nombre de questions. Mais habituellement, je fais ce qu'ils font aussi, c'est d'utiliser des plantes médicinales pour certains troubles digestifs et qui sont en fait complémentaires. En plus des médicaments ou des processus qui peuvent être faits comme d'endoscopie, etc. Nous avons incorporé quelques médicaments que nous savons qu'ils pouvaient avoir des résultats et sont écrits dans l'herboristerie et le médicament de la médecine normale hippocratique.
Félix, avez-vous relevé des pathologies spécifiques qui seraient liées aux conditions de vie des Mapuche, ce qui permet à la fois eh bien, de nous éclairer sur ces pathologies spécifiques et puis en même temps de témoigner des conditions de vie?
Eh bien, il y a des maladies qui sont propres du monde mapuche et qu'elles sont traitées directement par la machi, qui est la personne responsable de la partie religieuse et curative du peuple mapuche. Par exemple, dans le Machitun, qui est une cérémonie de guérison, les patients qui sont traités, ceux qu'ils ont des troubles émotionnels, tels que le stress, l'angoisse, la détresse et les troubles dépressifs. J'ai participé au Machitun où la branche de la Machi et ses collaborateurs créent une ambiance très forte de point de vue émotionnel, où elle se communique avec les dieux et jette le méchant, le malocoutran, comme il l'appelle, au coutran, et libère le malade de cette maladie. Je dirais que la Machi, elle est très spécifique dans ce type de traitement émotionnel. Mais il y a des autres types de procédures, comme les guérisseurs de os, qui font des manœuvres dans les extrémités quand il y a une fracture, afin de les soigner. Il y a aussi des autres spécialistes.
Michel a rencontré et interviewé Tania Marino, une descendante de Mapuche, lors de l'Université d'été des mouvements sociaux tenue à Nantes en août 2021. Tania Marino, actuellement vivant en Suisse, représentait alors un réseau de solidarité et de soutien aux Mapuche basé en Europe.
Vous êtes basé en Suisse, c'est stratégique?
Alors nous, on habite en Suisse, donc ça c'est des circonstances, on va dire, politiques. Mes parents sont des réfugiés politiques, donc c'est lié à la dictature de Pinochet dans les années 70. Et c'est pour ça que moi-même j'ai grandi en Suisse, et voilà, et que je parle parfaitement le français. Et le réseau Mapuche, en fait, les Mapuche vivent au Chili et en Argentine, on fait aussi partie de l'exil et il y a des Mapuche à travers l'Europe. Donc on se regroupe dans ce réseau. Et nous, on fait partie de la Suisse, mais on est en contact avec des Lamiennes, donc des frères et sœurs à travers toute l'Europe. Et évidemment, on est en contact direct avec nos Lamiennes du Walmapu, soit du Chili et d'Argentine.
Comment on peut présenter les Mapuches?
Alors les Mapuches, donc la signification du mot Mapuche, c'est homme de la terre, gens de la terre. Voilà, Mapu, terre, Che, gens, homme, peuple, c'est notre nom.
Et ça représente une population de combien de personnes?
On est le peuple autochtone plus important du Chili. Il y a aussi les Aymara, il y a aussi d'autres peuples, mais on est le plus important. Alors, par rapport à la population chilienne, ça représenterait à peu près moins des 10%. Et le peuple Mapuche vit essentiellement au sud du Chili. La situation actuelle des Mapuche, alors on peut parler de deux choses. Donc, il y a la situation, on va dire, économique. C'est la population plus pauvre du Chili. Bon, donc ça s'explique pour plusieurs choses. Donc c'est lié vraiment à l'origine, à la découverte entre guillemets des 500 ans. Il faut savoir que les Mapuches est le seul peuple, je crois, oui, il me semble, autochtone qui a pu résister aux Espagnols. Donc ils ont pu préserver un certain territoire en signant des accords territoriaux, chose qui n'a pas été respectée ensuite par les Chiliens, en fait. Donc finalement, c'est les Chiliens qui ont colonisé. Et donc c'est à partir de là que les Mapuches ont perdu la souveraineté territoriale. À partir de là, c'est le début de la pauvreté, de l'oppression, de perte de tout. Ils étaient obligés, on était contraints de se soumettre à la culture dominante qui était représentée par le Chili. Ça se traduit par plusieurs choses, par le port de habits interdit, de ne pas parler notre langue, d'effacer tout ce qui est Mapuche pour être finalement chilien. Voilà, alors à partir de là, il y a des Mapuches qui ont entre guillemets accepté et il y en a d'autres qui n'ont jamais accepté, la plupart en fait. Et c'est à partir de là qu'il y a toujours eu, dès le départ, toujours eu une résistance et une lutte pour récupérer leurs droits et leurs terres. Voilà, on en arrive en 2021. Donc nous, on soutient les Mapuches qui revendiquent leurs terres, tout simplement, pour pouvoir y vivre et pour pouvoir vivre en tant que Mapuche. Et les communautés qui vont dans ce chemin sont persécutées par le gouvernement. Concrètement, ça se traduit par une occupation militaire des régions concernées. Il y a comme une zone rouge. Et c'est terrible parce que le Chili est considéré aujourd'hui comme une démocratie. Alors que quand on va dans ces régions-là, beaucoup de gens sont étonnés, ils disent « on se croirait en Palestine ». Donc ça, c'est dans certaines zones, c'est pas dans toutes les zones, c'est dans les parties où les communautés ont décidé d'exercer leur droit à récupérer leurs terres légitimes, un droit qui est légitimé aussi par le droit international. Il y a une déclaration sur les droits des peuples autochtones aux Nations Unies qui considère que oui, c'est juste qu'ils puissent vivre et qu'ils puissent avoir leur mot à dire, d'exercer l'autodétermination sur leurs terres. Et là, maintenant, le défi actuel, c'est justement la pratique de ce droit-là. Et c'est là où on en est. Et nous, Red Mapuche Suisa, on soutient cette lutte.
Comment s'exerce la résistance ou la lutte?
Alors, tout simplement, en récupérant les terres, en occupant. C'est souvent par des occupations de terres. Ils savent très bien où sont été leurs territoires occupés. Donc, ils vont l'occuper et ils vont demander à récupérer, toujours par la négociation, par toutes les voies possibles. Et puis, quand c'est plus possible, ils l'occupent. Tout simplement. Le mouvement social Mapuche a été constant depuis les années 90 par rapport à d'autres mouvements sociaux comme ceux des étudiants en 2006. La démocratie, sur la base d'une constitution héritée de la dictature pinochetiste, a été très vite inacceptable pour le peuple Mapuche qui a eu le triste privilège de subir la loi antiterroriste sous les gouvernements de la concertation, sous les gouvernements entre guillemets socialistes de Michel Bachelet. Le soulèvement populaire chilien d'octobre 2019, dit la Revuelta, a permis un rapprochement entre le peuple chilien et Mapuche. En effet, la Huenufoy, qui est ici, le drapeau Mapuche, a été brandi par les Chiliens et au nord, la Huipala a également été levée. Les Chiliens ont subi la répression policière durant leur mobilisation, cette même répression que le peuple Mapuche vit depuis ces trois décennies. La contestation populaire a conduit au référendum un an plus tard pour la rédaction d'une nouvelle constitution.
Tu peux dire un mot sur les prisonniers politiques?
Voilà, et bien justement, donc quand il y a ces actions, donc une des actions c'est l'occupation du territoire, mais c'est aussi d'aller porter au niveau juridique, au niveau médiatique, ou dénoncer publiquement, ou de monter à Santiago, etc. Et ben, quand il y a des actions de mobilisation, de manifestation, il y en a beaucoup à Temuco. Donc c'est dans ce cadre-là, quand les activistes sont identifiés et tout, et bien très souvent ils sont prisonniers sur du faux, sur un montage. C'est-à-dire justement comme il y a cette construction du Mapuche terroriste, ils lui mettent des charges comme quoi ils ont trouvé par exemple vraiment des choses ridicules, mais ça tient à rien du tout. Par exemple des tracts, voilà, activistes de dénonciation, ben, ça peut valoir à un Mapuche d'être emprisonné dans des prisons haute sécurité parce que c'est considéré comme terroriste sur des simples tracts. Il y a eu des montages, c'est-à-dire qu'ils ont caché des armes, et ça c'est tout le fait des policiers. Tout ce que je vous raconte là, ce n'est pas notre version, ça a été avéré et vérifié et prouvé ensuite par les journalistes, par les enquêtes et tout, que ça a toujours été une main extérieure qui a mis les armes. Donc on les emprisonne souvent pour rien du tout, pour des prétextes. Et puis la procédure fait son cours, et donc il y a cette histoire de prison préventive, et ça c'est tout contraire aux droits humains à ce niveau-là, c'est que ça peut prendre des mois et des années pour finalement dire « Ah, en fait, c'est bon, il n'a rien fait » et il le relâche. On va dire que c'est le scénario du moins pire. Et le pire, c'est quand ils sont condamnés. Puis là, ils peuvent prendre des peines assez élevées. C'est, je crois que juste récemment qu'ils sont en train de retirer cette loi. Mais il y a jusqu'à très récemment la loi antiterroriste, donc une loi qui avait été érigée par la dictature Pinochet, qui était en vigueur et qui a été appliquée aux Mapuche. Et ça, c'est quelque chose de scandaleux parce que ça s'est fait en pleine démocratie. Et cette loi antiterroriste a été très peu utilisée. C'est ça qui est absolument ironique, je ne sais pas. Elle a été utilisée par le gouvernement de la concertation, par le gouvernement, entre guillemets, socialiste de Bachelet, et très peu utilisée par Pinochet quand il était à l'exercice. Ça a été vraiment utilisé à 100% avec les Mapuches.
Je reviens sur l'aspect juridique. Qu'est-ce qui est mis en avant? Le droit coutumier, les différentes résolutions? Comment ça s'articule tout ça? Ça peut être aussi un problème, non?
Non, ce n'est pas un problème parce que, comme je l'ai dit précédemment, il y a déjà le droit international. Donc il y a une base claire qui peut rendre tout le monde d'accord. C'est cette fameuse déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui, justement, permet l'autodétermination sur leurs terres. Après, la question, c'est comment l'appliquer au niveau politique. À partir du moment qu'il y a cet exercice du droit d'autodétermination, cela permet au peuple d'exercer leurs droits coutumiers. Faut-il que le gouvernement en place accepte? Est-ce qu'avec l'Assemblée constituante, y aura-t-il un changement? Ça, on verra. Mais par exemple, si on peut faire un parallèle, la Bolivie, dans sa constitution qui a été issue d'une Assemblée constituante, elle a intégré dans sa constitution cette déclaration. Et donc, les peuples indigènes de Bolivie ont cette faculté de pouvoir mettre en œuvre ce droit-là. C'est ce que demandent les Mapuches, ça n'a rien de révolutionnaire en soi, en fait. C'est juste de pouvoir exercer l'autodétermination des peuples. Et ce n'est pas seulement les Mapuches, mais en fait, c'est tous les peuples du monde et les gouvernements doivent respecter cela.
On conclut par un mot sur les conditions féminines.
Alors le féminisme, c'est quelque chose pour ma part que je trouve très important. Alors pour nous, pour les Lamiennes, dans les discussions que j'ai eues avec les Lamiennes, tant au Chili qu'en Bolivie, le féminisme, d'abord c'est une notion occidentale. Mais il y a quand même un partage de dire, bon voilà, on vit tous, femmes indigènes que non indigènes, on vit tous sous le système capitaliste et patriarcal. Et c'est ça notre ennemi commun et on œuvre à se mettre ensemble pour contrer cela. Alors dans cette perspective-là, je rejoins un peu les bases que mes sœurs développent en Bolivie et qui s'étend aussi au Colombie et au Chili. C'est quelque chose qui est ouvert, qui se questionne. Et il y a un féminisme qu'on appelle le féminisme communautaire. La particularité de ce féminisme-là, c'est qu'il part de en bas, des femmes indigènes, qui part du local en fait, et de pouvoir exercer leurs droits à partir de là. C'est quelque chose qui se construit. Et ce qui est clairement identifié, c'est le capitalisme.
Est-ce que aussi ça remet en cause bien toute une éducation qui est liée à la culture?
Oui, alors ça, c'est aussi un autre défi parce que tant les femmes mapuches que les femmes chiliennes, et puis que finalement chiliens, mapuches et tout, en fait, c'est très important de prendre l'aspect de la décolonisation. Il n'y avait pas cette relation, c'est ce que me dit ma mère, il n'y avait pas cette relation qu'on peut voir actuellement dans les communautés des hommes mapuches qui sont très machistes, enfin machistes à la latino, quoi. Donc voilà, et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit combattre parce qu'on est tous affectés par cette colonisation. Et on en revient toujours à la structure du capitalisme et du patriarcat. Oui, c'est ça notre défi, c'est d'identifier et d'écarter ce qui ne nous convient pas en tenant compte de notre culture. Mapuche ou pas, notre mère, terre, la Mapuñuque, Pachamama, n'est qu'une. Nous sommes tous en lien, nous sommes tous des gens de la terre et notre devoir est de la défendre pour pouvoir mieux vivre ensemble. L'urgence climatique frappe en premier lieu les peuples autochtones, mais nous sommes tous concernés. Cela va au-delà d'une solution écologique, environnementale. Il ne s'agit pas de la sauvegarde de la planète, mais de la sauvegarde de la vie, du futur de nos peuples qui revendiquent ce lien avec une histoire, culture commune dans les deux Amériques. Une prise de conscience internationale est primordiale pour nous unir, contrer et identifier notre ennemi commun avec une perspective décoloniale. La suite de cette prise de conscience est l'engagement pour un changement profond avec le principe de solidarité. Notre futur est lié. Prenons notre destin en main collectivement dans le but du vivre ensemble, qu'on appelle le Kumemogon ou la Sumacamania en Bolivie, dans l'esprit du Marichihueo. Le Marichihueo, c'est que quand un Mapuche tombe, 10 se relèvent. C'est notre chemin, on ne se pose pas la question. Car si pour nous c'est difficile, que sera le futur de nos enfants ?